Bonjour et bienvenue, 10h TU, 11h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, la suite des libérations d'otages dans la bande de Gaza. Ce matin, un convoi de la Croix-Rouge a quitté le territoire palestinien avec à son bord trois otages israéliens libérés dans le cadre de la trêve conclue entre Israël et le Hamas. Le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda continue d'avancer dans l'est de la RDC. Dans un instant, le témoignage d'un habitant de Bukavu. La situation a contraint le président Tshisekedi à renoncer à participer au sommet de l'Union africaine. Le torchon brûle entre Washington et Berlin, l'approche des élections allemandes. Les Allemands n'accepteront pas que des tiers interviennent en faveur de l'extrême droite, prévient le chancelier Olaf Scholz. L'escalade militaire dans l'est de la République démocratique du Congo a bousculé l'agenda du sommet de l'UA, sommet qui se tient ce week-end dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Le président congolais, Félix Tshisekedi, donc, a renoncé à s'y rendre, tandis que Kinshasa réclame enfin en vain des sanctions contre Kigali. Les appels de la communauté internationale à un cessez-le-feu se sont multipliés, sans résultat jusqu'à maintenant. Il faut éviter à tout prix une escalade régionale, a lancé ce matin le secrétaire général de l'ONU à l'ouverture du sommet de l'Union africaine. Sur place, le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, continue d'avancer dans la province du sud de Kivu. Nous avons pu joindre un habitant de Bukavu, Olivier Kiriza Namugoka. Il évoque des tirs et des scènes de pillage.
Depuis hier soir, nous sommes enfermés dans nos maisons. Nous entendons des crépitements de balles. On tire par-ci, par-là. Et de par les quelques conversations qu'on a pu faire avec les frères et les amis qui sont dans la commune mère de Kadutu, ils nous parlent de certaines scènes de pillage. Hier, au cours de la journée, on a vu les militaires en train de quitter la ville et prendre une direction vers l'ouest de la ville. Et c'est comme ça que vers la soirée, on s'est rendu compte qu'au niveau de la ville, il n'y avait plus de policiers, il n'y avait plus de militaires. Mais ça nous étonne qu'on entende quand même des crépitements par-ci, par-là. La situation, elle est confuse, on ne sait pas qui contrôle la ville. Ce que nous attendons, c'est de savoir en principe la situation, elle est comment. Parce que normalement, ceux-là qui peuvent peut-être s'approvisionner ou ceux-là qui peuvent chercher de l'eau ou chercher quelque chose, on voudrait savoir exactement la situation, elle est comment, qui contrôle. C'est vraiment ça la peur que nous avons.
Contacté ce matin par Amira Swilem, c'était un habitant de Bukavu. Il coordonne le réseau des radios et télévisions communautaires du Sud Kivu. Le Hamas a comme prévu libéré ce matin trois nouveaux otages à Gaza, trois hommes tous binationaux qui avaient été enlevés dans un kibboutz. Ils ont recouvré la liberté après plus de 16 mois de captivité. Leur remise en liberté découle de l'accord de trêve conclu entre Israël et le mouvement islamiste. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 19 janvier, 19 otages israéliens ou binationaux ont été libérés. La première phase de l'accord prévoit la libération de 33 otages en échange d'environ 1900 Palestiniens détenus par Israël. Au Liban, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité intérieure a été convoquée ce matin à Beyrouth. Les autorités ont promis des sanctions contre les responsables d'une attaque d'un convoi de l'ONU hier soir dans la capitale. Elle a fait deux blessés. Le convoi de la FINU le transportait des casques bleus vers l'aéroport international de Beyrouth. Il a été violemment attaqué et un véhicule a été incendié sur une route bloquée par des partisans du Hezbollah. Volodymyr Zelensky l'assurait hier à la conférence de Munich sur la sécurité. La situation de l'Ukraine s'améliore sur le front Est. C'est vrai notamment autour de la ville minière de Pokrovsk dans la région de Donetsk, région qui permet l'accès à d'importantes ressources de lithium et de charbon. La ville sert aussi de verrou de contrôle de la région centrale de Dniepropetrovsk où la Russie tente de progresser. Lila Olkinouara a recueilli les explications du général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies.
De la même façon qu'à Pokrovsk, il n'y a pas beaucoup de progression. Il faut se rappeler simplement que aujourd'hui, les pertes russes sont deux fois plus importantes que les pertes ukrainiennes. On parle de 600 pour les uns et 1200 pour les autres, quotidiennement. Donc, à ce rythme-là, la Russie ne peut pas tenir trop longtemps une offensive, sauf à éroder complètement sa capacité offensive. Donc, globalement, les Ukrainiens tiennent bien sur leur ligne. Alors, il n'en reste pas moins qu'ils sont incapables de reprendre le terrain, mais ils empêchent les Russes de progresser beaucoup plus. Les lignes, pour l'instant, sont plutôt figées. Il y a eu deux contre-attaques dans la région de Koursk, donc en territoire russe, mais qui n'ont pas donné grand-chose. Du côté russe, les avancées sont vraiment très minimes.
Le général trinquant, je vous le disais dans les titres. Le ton monte entre Washington et Berlin à l'approche des élections allemandes dans 8 jours. Les Allemands n'accepteront pas que des tiers interviennent en faveur du parti d'extrême droite AfD. Déclaration à Munich du chancelier Olaf Scholz après les propos tenus hier dans la capitale bavaroise par le vice-président américain qui avait critiqué une ostracisation de l'AfD. Aux États-Unis, une crise à la fois politique et judiciaire ébranle le ministère de la Justice ainsi que la ville de New York. Son maire Eric Adams, élu sous les couleurs démocrates, s'est confronté à des accusations de corruption. Il s'est rapproché ostensiblement de l'administration Trump pour tenter d'échapper aux poursuites. Correspondance à Washington de Guillaume Nodin.
L'image est étonnante. Sur le plateau de la chaîne d'information conservatrice Fox News, Eric Adams, maire d'une ville dite sanctuaire pour les immigrants, est tout sourire aux côtés de Tom Homan, le garde-frontière en chef nommé par Donald Trump. Et le maire promet de collaborer avec le responsable républicain pour faciliter son programme d'expulsion massive des immigrants illégaux, qui seraient au moins 200 000 à New York. Si Eric Adams est en train de tourner casaque, c'est qu'il cherche manifestement des garanties sur l'abandon des poursuites contre lui dans une affaire de corruption retentissante impliquant notamment la Turquie. Sauf que cela ne se passe pas exactement tranquillement. Le numéro 2 du ministère de la Justice, Emil Bovey, ancien avocat de Donald Trump, a demandé à ses services d'abandonner ses poursuites, mais la procureure fédérale par intérim de Manhattan, Danielle Sassoon, pourtant une républicaine convaincue, a refusé de s'exécuter. Au lieu de ça, elle a démissionné en envoyant une lettre de 8 pages où elle explique que la demande n'a rien à voir avec la solidité du dossier. Son adjoint a suivi, ainsi que 5 autres procureurs à New York et à Washington. Ce qui rappelle un peu des démissions en cascade au moment de l'affaire du Watergate en 1973. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Allons maintenant en Argentine, pays dont la justice réclame l'arrestation du chef de la junte au pouvoir en Birmanie. Elle réclame aussi l'arrestation de la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi et d'une vingtaine d'anciens responsables militaires et civils. Tous sont poursuivis en Argentine pour génocide et crimes contre l'humanité, contre les Rohingyas, minorité musulmane de Birmanie. Oriane Verdier.
C'est une lueur d'espoir pour les Rohingyas qui ont vu pendant des décennies leur famille et leur culture être détruites en toute impunité. Déclaration hier de l'association à l'origine de l'enquête Burmese Rohingya Organization UK avait déposé une plainte en 2019. De confession musulmane dans un pays à majorité bouddhiste, les Rohingyas sont considérés par l'État birman comme des migrants illégaux venant du Bangladesh voisin. En 2021, la justice argentine a décidé d'ouvrir une enquête au titre de la compétence universelle, un principe qui permet de poursuivre les auteurs présumés des crimes les plus graves, quelle que soit leur nationalité et l'endroit où les faits ont été commis. Les témoignages se sont succédés de personnes en Argentine, mais aussi depuis un camp de réfugiés au Bangladesh. La juge argentine estime qu'un mandat d'arrêt international devrait être ordonné, y compris contre la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, dirigeante de facto de la Birmanie entre 2016 et 2021. En novembre dernier, le procureur de la Cour pénale internationale avait demandé l'émission d'un mandat d'arrêt contre le chef de la junte birmane pour crimes présumés contre l'humanité, contre la minorité Rohingya. Il n'a pour l'instant pas été émis.
C'était Oriane Verdier. Pour finir, des nouvelles du pape François qui, à 88 ans, souffre d'une bronchite, une infection des bronches qui le diminue beaucoup. Tous ses rendez-vous prévus ce week-end ont dû être annulés. Les précisions sur place d'Éric Sénanque.
C'est une bronchite persistante qui a contraint François à revenir à l'hôpital Gemelli de Rome, là où il avait déjà effectué plusieurs séjours, le dernier en date en juin 2023 pour une opération à l'intestin. Ces derniers jours, le pape de 88 ans avait montré des signes de grande fatigue. Dimanche dernier, en pleine messe célébrée place Saint-Pierre, il avait interrompu son homélie.
Je m'excuse et demande au maître des célébrations de poursuivre la lecture parce que je manque de souffle.
Lundi, François avait reçu en audience le recteur de la Grande Mosquée de Paris qui avait été marqué par sa fatigue. Entre décembre et janvier, le souverain pontife était par ailleurs tombé 2 fois sans gravité mais donnant des sueurs froides à son entourage. Hier soir, un communiqué de la salle de presse du Saint-Siège a révélé que le pape souffrait d'une infection des voies respiratoires et d'une légère fièvre, mais le porte-parole du Vatican a précisé à des journalistes qu'il était serein, de bonne humeur et avait lu quelques journaux. Toutes les activités du chef de l'Église catholique ont été annulées jusqu'à lundi. Selon certaines sources citées par le quotidien Repubblica, son hospitalisation pourrait s'étendre jusqu'à 5 jours. Éric Sénanque, Rome, RFI.
Très bonne journée sur RFI. À suivre l'économie avec Bruno Faure.